Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, le printemps est déjà là, hein, vous l'avez remarqué. Avez-vous bien dormi? Alors, je me permets de faire un petit sondage au sujet de la qualité de votre sommeil. Sur le mois passé, qui estime avoir une bonne qualité de sommeil, avoir eu une bonne qualité de sommeil sur le mois passé? Lève bien haut la main. Ok? Qui estime avoir, au contraire, eu une qualité de sommeil moyenne, voire mauvaise? Levez bien haut la main. J'ai l'impression que c'est une majorité. Alors, il existe évidemment plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi on dort moins bien après un repas trop lourd, des soucis digestifs, un bébé qui ne fait pas ses nuits, et j'en passe. Je vous demanderai de lever encore une fois la main si vous êtes concerné par ce que je vous demande. Combien d'entre nous attribuent leur mauvaise qualité de sommeil au fait de beaucoup cogiter, de beaucoup s'inquiéter, ou parce qu'ils sont sous pression? Levez bien haut la main. Merci. Nous aurions pu intituler ce sondage « Êtes-vous bien reposé ?» Au sujet du repos, nous l'avons entendu dans sa parole, Dieu a son mot à dire. Cela fait déjà 3 mois que les Israélites sont sortis libres du pays d'Égypte, laissant derrière eux leur vie d'esclaves. Ils sont parvenus au pied du mont Sinaï. Ils tremblent de peur, comme nous l'avons vu les semaines précédentes, car la montagne devant laquelle ils se trouvent est entourée d'une épaisse nuée. Elle est comme une fournaise qui brûle. Et l'Éternel, en fait, le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte est descendu. Il veut conclure une alliance avec ce peuple fraîchement libéré, comme il avait fait alliance autrefois avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est dans ce cadre de l'alliance que Dieu leur donne sa loi, en commençant de vive voix par 10 paroles que nous appelons aussi les 10 commandements. Et la semaine dernière, avec Clément, eh bien, nous avons abordé les 3 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune représentation, avant de montrer cela, tu ne feras aucune représentation de Dieu pour l'adorer. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu à la légère ou bien pour tromper. Ces paroles commandent une relation exclusive entre Israël et l'Éternel, son libérateur. L'Éternel seul, qui s'est soucié de son peuple, qui est intervenu quand celui-ci était dans le malheur, est digne d'être adoré, comme nous le faisons ce matin, et digne de recevoir la plus grande considération. C'est lui le libérateur. Et ce matin, c'est donc sur cette 4e parole que nous allons méditer. Ce Dieu qui ne tolère aucun rival, pas d'autre Dieu que moi, ce Dieu qui ne tolère aucun rival demande aussi à son peuple un jour qui lui est exclusivement réservé dans la semaine, le jour du repos, le sabbat. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Ce commandement nous parle donc de repos, mais aussi de travail. Au verset 9, nous lisons: « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. » Mais le 7e jour, eh bien, personne ne doit travailler. Autrement dit, si nous devions discerner l'intention de Dieu ici, Dieu veut que son peuple se repose. Et précisément durant un jour dans la semaine qui lui est consacrée. Et il me semble que pour bien comprendre ce que Dieu est en train de demander à Israël, il faut d'abord prendre Dieu lui-même comme point de départ. Et donc, en cela, je vous expose un peu le plan que je vais suivre. Commençons par parler justement de ce qui est évoqué au dernier verset de ce commandement, le verset 11. Dieu s'est reposé. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. travailler durant 6 jours et se reposer le 7e, c'est l'idée de Dieu et non des hommes. C'est ainsi que nous est présenté le récit de la création dans le premier livre de la Genèse, dans le premier livre de la Bible, la Genèse. En 6 jours, Dieu a créé à partir de rien l'univers que nous connaissons. Et en cela, cette œuvre divine est unique, cette création à partir de rien. Dieu l'a fait une seule fois. Et sur sa parole, alors qu'il n'y avait rien, et sur sa parole, le monde est venu à l'existence. Et voilà comment cette œuvre est récapitulée en Genèse 2, les versets 2 à 3. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc ça, c'est le récit de la Genèse. Et donc, on comprend bien que ce 4e commandement renvoie au commencement. Donc, le cycle travail et repos vient de ce que Dieu a fait lui-même au commencement, à l'origine. Après les 6 jours, Dieu s'est reposé au 7e jour. Il s'est reposé non pas parce qu'il était particulièrement fatigué, mais parce que son travail était terminé. Est-ce qu'il vous arrive de vous reposer une fois que votre travail est terminé et pas juste parce que vous êtes fatigué, alors même si parfois ça va ensemble. Mais Dieu, c'est parce qu'il a terminé qu'il se repose. Il a terminé son travail. Cette création, alors qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu, ce travail de création qui se situe au commencement a été achevé. Nous ne parlons pas d'un 2e épisode de création, de 3e épisode, non. Ce travail de création, Dieu l'a achevé et le 7e jour, il se repose. C'est comme un peintre qui estime que son tableau est terminé. Le peintre peut reposer le pinceau et il peut regarder son œuvre. Et il a bien le droit d'en être satisfait, surtout si c'est Dieu le peintre. D'ailleurs, nous lisons 2 versets avant le passage que je viens de lire. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 1, verset 31. Donc Dieu regarde ce qu'il a fait, il trouve ça très bon, et le lendemain, il se repose. Ce jour-là, Dieu se repose de son activité. Et en plus de cela, eh bien, nous lisons qu'il bénit ce jour. Ce jour, ce 7e jour, qui semble ne pas avoir de fin. Il n'y a pas la mention qu'il y a eu un soir ou un matin. Non, on ne trouve pas cette formule-là pour le 7e jour. C'est un jour qui est sans fin. Et c'est ce jour-là, sans fin, que Dieu établit comme étant un jour saint. Un jour où l'homme et la femme rendent continuellement un culte à Dieu, où ils vivent constamment pour lui. Le théologien Henri Blocher considère que ce jour 7 représente l'histoire. C'est l'histoire qui se déroule à partir de là. Le temps de l'histoire entre Dieu et sa création. Le temps de l'histoire entre Dieu et l'humanité. Telle était l'intention du Créateur, que le temps de l'histoire, ce 7e jour sans fin, lui soit consacré. L'homme et la femme vivant pour lui exclusivement, en communion avec lui. Voilà le projet originel de Dieu. Mais à cause de la chute, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, il y a eu une rupture à ce moment-là. L'humanité s'est détournée de son Créateur et ne vit plus exclusivement pour Dieu. Dieu avait béni l'homme et la femme, mais à cause de leur péché, les voilà maudits. Leur travail aussi est maudit. Il devient pénible. Et au fil de l'histoire, l'homme en est venu à exploiter l'homme. Et c'est là qu'on en arrive à l'histoire d'Israël. Parce que c'est précisément comme ça que les Israélites ont été traités, en étant esclaves du peuple égyptien. Tout cela est en lien avec la malédiction portée sur le travail. Et le peuple d'Israël a expérimenté ça à son comble, devenant esclaves d'un autre peuple, travaillant sans cesse. Non seulement le travail était pénible, mais nous pouvons bien imaginer ce travail incessant. 7 jours sur 7, il fallait fabriquer des briques encore et encore. Et à un moment donné, même les conditions se sont durcies. Fabriquer toujours autant de briques et on ne vous fournira plus la paille. Il faudra aller la chercher par vous-même. À cette cadence, nous comprenons pourquoi le peuple gémissait. Nous aurions tous gémi à leur place. Et dans sa grâce, Dieu a secouru ce peuple, est intervenu en leur faveur. Et c'est tout le récit de la première partie du livre de l'Exode. Et c'est donc à ce peuple, habitué à une cadence quotidienne, que Dieu donne un nouveau rythme. Oui, il y a encore du travail. Tu travailleras pendant 6 jours. Mais la nouveauté pour ce peuple, c'est qu'il reçoit, non pas de son patron, mais de son créateur, un jour de repos. Voilà la nouveauté, le nouveau rythme. Travail et repos. Ce que le peuple d'Israël ne connaissait pas jusque-là. Ce qui correspond à ce moment-là au fait que désormais, le peuple apprend à ne pas vivre pour son travail, mais à vivre pour Dieu. Et on rejoint là l'intention originelle du Créateur pour l'humanité. Alors c'est vrai que le peuple d'Israël ne profite pas d'un repos permanent, seulement 1 jour sur 7. Mais c'est déjà beaucoup pour ce peuple. C'est déjà une grâce de la part de Dieu. Donc, notre point de départ se trouve là, partir de Dieu. Partir du fait que c'est lui qui a instauré ce rythme, 6 jours de travail, 1 jour de repos. Et que particulièrement ce 7e jour est un jour qui doit lui être consacré, un jour où il s'agit de ne pas travailler. Alors c'est là que j'en viens à mon 2e point, le fait que, donc, par conséquent, Dieu s'est reposé, donc le peuple de Dieu doit se reposer. Et c'est ce que nous voyons précisément dans ce commandement. Contrairement aux 3 premiers, on constate que ici la formulation est beaucoup plus positive. Ce n'est pas « tu ne feras pas », même s'il est indiqué à l'intérieur de ce commandement « tu ne feras aucun travail », mais c'est plutôt « souviens-toi ». Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Souviens-toi. Le 4e commandement est d'abord un ordre sur ce que le peuple doit faire. Ne pas oublier que ce jour, ce 7e jour, à la fin de la semaine, est un jour où il faut interrompre tout travail. Vous rendez-vous compte un instant que Dieu est en train de leur commander de se reposer. Sans doute parce que l'homme ne saurait en venir à cette idée par lui-même. Si ce n'est pas Dieu qui lui demande de se reposer, sans doute que l'homme ne s'arrêterait pas dans sa cadence. J'entends parfois des gens me dire « Dormir, pourquoi faire ?» Ou « Dormir, c'est une perte de temps. » Mais par rapport à quoi une perte de temps? Par rapport au temps de travail? Par rapport au temps de loisir? Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a dû apprendre quelques semaines plus tôt en quoi consistait ce sabbat. Si je remonte quelques chapitres avant, en Exode 16, nous retrouvons le peuple qui se plaint parce qu'il a faim. Et dans sa bonté, Dieu lui donne une nourriture nouvelle, la manne, en quantité suffisante pour tout le peuple. Pendant 6 jours, ils peuvent en ramasser. Le 6e jour, ils peuvent même en prendre 2 fois plus. Pourquoi 2 fois plus? Parce que le 7e jour, il n'y aura rien à ramasser. Dieu ne donnera rien, parce qu'il a déjà donné le double la veille. Pour que le peuple puisse apprendre que ce jour-là, il ne doit pas y avoir d'activité. Il ne doit pas sortir pour aller voir s'il y a de la nourriture. C'est le sabbat. Le jour du repos. Et lors de ce 6e jour, Moïse a bien expliqué, Exode chapitre 16, verset 23, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et plus loin, puisque certains, des petits malins, n'avaient pas respecté la consigne, sont allés voir quand même s'il n'y avait pas la manne à un moment donné le septième jour, Dieu dit de nouveau au verset 29 du chapitre 16, « Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. » Voilà pourquoi le sixième jour, il vous donne de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. Le peuple a donc déjà appris quelques semaines avant cette expérience du rythme, six jours de travail. Alors là, en l'occurrence, dans le contexte, c'était six jours à ramasser de la manne et un jour de repos, où chacun reste sous sa tente. Et plus tard, quand le peuple aura le tabernacle, il recevra l'ordre de se rassembler ce jour-là pour rendre un culte à l'Éternel. Donc, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. C'est donc ce commandement où Dieu est celui qui détermine le rythme de vie de son peuple. Ce n'est plus le Pharaon. Non, c'est Dieu désormais qui donne le nouveau rythme. C'est Dieu qui donne dans sa grâce, dans son amour pour son peuple, un jour pour pouvoir se reposer de tout le travail accompli. Mais il faut quand même prendre en compte que dans ce commandement, ce quatrième commandement, Dieu ordonne également le travail. L'homme n'a pas été créé pour rester oisif ou pour des loisirs illimités. Et nous avons dit tout à l'heure que c'était à cause de son péché que l'homme a été condamné à travailler durement. Péniblement. Mais le travail en soi n'est pas une mauvaise chose. Le travail fait partie de la vocation humaine. Travailler, c'est fait partie du fait d'être humain. Dans le jardin d'Éden, l'homme a reçu comme mandat de prendre soin de ce jardin, de le cultiver, de le garder. Mais le travail, à cause de la désobéissance de l'homme, n'est plus une bonne chose. Si l'homme ne peut plus s'arrêter, si l'homme ne s'arrête plus pour se reposer. De nos jours, certains se reconnaissent comme étant des bourreaux du travail. J'ai même découvert un féminin pour cette expression, des bourrelles de travail. Ce sont celles et ceux qui travaillent trop, qui ne font que ça, qui sautent des repas pour ça, qui dorment peu, qui pensent toujours au travail, même le dimanche, parce qu'ils travaillent le dimanche. Et assurément, les bourreaux et les bourrelles de notre temps doivent entendre qu'un tel rythme ne correspond pas à l'intention du Créateur, ne correspond pas à l'intention du Dieu qui a sauvé autrefois son peuple de l'esclavage. Oui, c'est de cela dont il s'agit. L'homme et la femme peuvent devenir esclaves de leur travail. Parce qu'ils doivent faire leur preuve, parce qu'ils doivent courir après une certaine productivité. Et peut-être même que leur patron ne leur laisse pas trop le choix. Et pour ces gens-là, eh bien, les 35 heures réglementaires sont un doux rêve. Mais par le quatrième commandement, Dieu instruit son peuple qu'il n'a pas été créé pour le travail, mais pour Dieu. Il n'a pas été créé pour vivre pour son travail, mais pour Dieu. Et ce nouveau rythme que Dieu donne à son peuple n'offre aucune dérogation, aucune exception. Le septième jour est un jour où tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. C'était un commandement déjà à mettre en pratique dans le désert, où chacun restait sous sa tente, mais aussi plus tard, quand Israël aurait des terres à cultiver, des maisons avec des serviteurs. Et dans ce cadre-là aussi, les esclaves et les servantes devaient cesser de travailler, de servir leur maître. Les animaux qui étaient utilisés pour travailler la terre devaient aussi se reposer. Par le commandement du sabbat, Dieu donne un repos à tous. Et Dieu responsabilise l'homme et la femme à veiller au repos de toute la maisonnée. Nous oublions peut-être parfois l'aspect social de ce commandement. Et cela questionne nos rythmes de vie. Voici quelques questions pour celles et ceux qui ne vivent pas seuls, qui vivent avec leur famille. Dans quelle mesure tous les membres de ma famille, mon conjoint, mes enfants, peuvent profiter d'un certain repos? Dans quelle mesure tous les membres de ma famille ont droit à ce repos? Y a-t-il, deuxième question, des membres qui travaillent plus que d'autres? Et j'y inclus les tâches ménagères. Je vois parfois des familles remplir des tableaux avec la répartition des tâches entre les parents et les enfants, et c'est sans doute une bonne chose. Y a-t-il des membres qui travaillent plus que d'autres dans la famille? Je repense à un court-métrage que j'ai vu il y a peut-être 1 ou 2 ans, où nous voyons un couple chez qui tout semble normal. À la maison, c'est la femme qui s'occupe des tâches ménagères. Monsieur rentre du boulot sans lever le petit doigt. Bon, vous avez bien compris, quand j'ai dit « tout semble normal », c'est avec des guillemets. Hein. Mais un jour, la femme craque. Devoir tout faire, c'est trop pour elle. Elle finit par faire des reproches à son mari, et à mon avis, à juste titre. Et clairement, dans ce couple-là, eh bien, le repos n'est pas respecté pour la femme. À cause du mari. Le mari n'a pas veillé à ce que sa femme puisse avoir suffisamment de repos. Et c'est malheureusement une réalité en France qui est loin d'être cliché. Est-ce que nous nous assurons dans nos foyers que chacun ait sa part de repos? Ne serait-ce que d'avoir du temps libéré, par exemple pour lire la Bible? Mais si je reprends le cas de la femme qui fait toutes les tâches ménagères, bah vous imaginez bien, quand est-ce qu'elle peut lire la Bible? Et c'est la responsabilité du mari de pouvoir lui accorder sa part de repos. Et donc de prendre en charge peut-être les tâches ménagères. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un message derrière ce que je viens de dire, mais il me semble qu'il y a ce genre de questions à se poser. Et les mêmes questions peuvent se poser pour la famille de Dieu, au sein de l'Église. Est-ce que certains membres font plus que d'autres? Est-ce que certains ont leur part de repos? Je vous laisse réfléchir à tout cela, mais il me semble que ce quatrième commandement nous oriente à réfléchir à ce genre de questions. Mes amis, en regardant de près ce commandement sur le sabbat, nous voyons un Dieu qui apprend à son peuple à se reposer devant lui, à le rejoindre dans son repos, lui qui s'est reposé le septième jour, à le rejoindre. Et nous découvrons qu'un Dieu qui apprend à son peuple que le temps lui appartient et que c'est lui qui définit un nouveau rythme pour tous. Alors, d'où maintenant la réflexion aussi pour nous, pour aller un peu plus loin. Dieu s'est reposé, nous devons donc nous reposer également. Alors, est-ce que nous avons tout dit au sujet de ce quatrième commandement? Il y aurait encore de la matière, mais pour ce matin, je voudrais répondre à 2 questions que nous avons peut-être depuis tout à l'heure et qui nous concernent directement. La première question, c'est: s'agit-il pour nous de distinguer un jour du reste de la semaine? Faut-il privilégier un septième jour, en faire un jour saint par rapport au reste de la semaine? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est: quel est le sens de ce repos pour nous aujourd'hui? Ça vous va? 2 questions? Oui, merci. S'agit-il pour nous de distinguer un jour des autres jours de la semaine? C'est vrai que ce commandement sur le sabbat est assez particulier dans l'Écriture parce que nous voyons que, en tout cas si on se concentre d'abord sur l'Ancien Testament, nous voyons à quel point le respect du sabbat était important pour le peuple d'Israël. Il n'était certes pas toujours respecté, mais son importance était toujours soulignée. Et ce que je n'ai pas dit, parce que ce n'est pas encore mentionné à ce stade du livre, c'est que le sabbat constitue le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Se reposer le septième jour, c'était donc respecter l'alliance entre Dieu et Israël. Et bafouer ce septième jour, c'était ne pas respecter l'Éternel. C'était donc vouloir sortir de cette relation d'alliance avec lui. Et en cas de transgression de ce commandement, qu'est-ce que le transgresseur pouvait attendre comme sentence, d'après la loi de Moïse ? La mort. Oui, celui qui transgresse le septième jour devait être puni de mort. C'est dire l'importance de ce commandement, et vous comprenez aussi pourquoi, jusqu'à l'époque de Jésus, avec les pharisiens, combien ils tenaient à ce commandement. Oui, il est important. Il est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et dans le Nouveau Testament, justement, Jésus recadre ceux qui avaient érigé cette loi comme un fardeau pesant sur les épaules du peuple. Jésus rappelle, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Le but dans la vie de l'homme, ce n'est pas de respecter le sabbat. En tout cas, pas selon ce que les pharisiens pouvaient imposer. Non, c'est l'inverse. Jésus leur dit, c'est le sabbat qui a été fait, qui a été donné par Dieu pour l'homme. Et plus tard, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome en leur disant, Romains chapitre 14, verset 5, « Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Et pour celui-là, ils sont tous égaux. » À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Distinguer un jour du reste de la semaine, ou non, est donc de l'ordre de la conviction personnelle. Et aux Colossiens, eh bien, Paul écrit aussi, Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. » Le calendrier contenu dans la loi de Moïse est décrit ici comme l'ombre dont la réalité se trouve désormais en Christ. En quoi le sabbat, le jour du repos, était une ombre et non la réalité ultime? Oui, Israël devait mettre un jour par semaine à part, un jour où il devait cesser tout travail, un jour consacré entièrement à l'Éternel. Or, nous avons déjà évoqué le fait que l'intention originelle de Dieu est que tout le temps de l'histoire lui soit consacré. Et qu'à cause du péché, l'homme a cessé de vivre entièrement pour Dieu 7 jours sur 7. Pour restaurer cette communion, pour retrouver cette intention originelle, il fallait régler le problème du péché. Or, Jésus l'a fait par sa mort sacrificielle, par la sanction de la mort qu'il a reçue pour nos péchés et à notre place. Oui, Jésus a réglé ce problème du péché de telle sorte qu'il donne la possibilité à celles et ceux qui placent leur confiance en lui de vivre entièrement pour Dieu. Non pas un seul jour sur tout le reste de la semaine, mais chaque jour de la semaine. Pour le croyant, le temps est de nouveau consacré à Dieu. Toute la vie du croyant est une vie qui tient compte de Dieu, qui vise sa gloire, qui est un culte permanent en son honneur. Et en réalité, le temps que j'ai, en tant que croyant en tout cas, ne m'appartient pas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que tout ce qu'ils font, y compris manger et boire, ils doivent le faire pour la gloire de Dieu. Sans exception, toute l'activité du chrétien, le travail, les études, les tâches ménagères, tout pour la gloire de Dieu. Toute l'activité du chrétien est inscrite dans un temps de l'histoire qui est de nouveau béni, sanctifié par Dieu. Et je l'avoue, c'est Sylvain Romerowski qui m'a orienté dans cette réflexion. Et en ce sens, si nous tenons compte de cela, il n'y a plus lieu de distinguer un jour comme plus important ou plus saint qu'un autre. Le sabbat est finalement étendu à toute la semaine. Vous me suivez jusque-là ? Certains défendront, et je veux bien discuter aussi de cela, défendront que le dimanche correspond au sabbat chrétien. Et ils ont des arguments qu'il faut entendre. Mais si le commandement du sabbat, ce quatrième commandement, ne renvoie qu'à une ombre, il faut alors nous intéresser à la réalité, au sens de ce sabbat pour nous aujourd'hui. Et c'est là que j'en viens à la deuxième question, quel est le sens de ce repos pour nous aujourd'hui ? Dieu invite son peuple à profiter du repos, car lui-même s'est reposé. Mais en quoi consiste précisément ce repos pour nous ? Est-ce que c'est un repos où il s'agit de ne rien faire ? À juste attendre que le temps passe ? Est-ce que c'est ça dont il s'agit ? Ce n'est sûrement pas le sens de ce commandement. Il faut d'abord préciser que le repos dont il est question ici ne peut se vivre sans Dieu ou en dehors de Dieu. Si vous vous reposez sans référence à Dieu, on ne parle pas de ce repos-là ici. Le peuple d'Israël devait se reposer parce que justement, c'était un jour consacré à l'Éternel. C'était un jour où le peuple devait faire confiance à Dieu. Et nous avons vu aussi que c'était un jour où il devait lui rendre un culte. Et en cela, bien évidemment, nous faisons bien de nous retrouver chaque dimanche pour vivre cette réalité collective. Mais si je peux, grâce à Jésus-Christ, vivre tous les jours en les consacrant à Dieu, cela signifie que je peux aussi profiter tous les jours de ce repos. Je n'ai pas besoin d'attendre le dimanche pour ça. Et entendez l'appel du Seigneur que Laura nous a lu tout à l'heure au début du culte. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. En venant dans ce monde, Jésus a apporté avec lui le repos dont nous avons tant besoin. Ne cherchons pas le repos en dehors de Jésus. Nous ne le trouverons pas de toute façon. Nous trouvons le repos en lui parce que c'est Jésus qui rétablit cette communion entre Dieu et l'homme. Entre l'homme et Dieu. Nous trouvons le repos auprès de Jésus parce que c'est lui qui a tout accompli et qu'il n'y a rien à ajouter à son œuvre. Pour ton salut, tu peux te reposer. Tu peux te reposer sur son œuvre, sa mort, sa résurrection. Tes œuvres n'y changeront rien. Tu n'es pas sauvé sur la base de tes performances ou de ton obéissance. C'est son œuvre qui compte, l'œuvre de Jésus-Christ. Et maintenant que son œuvre pour notre salut est achevée, tout est accompli, il nous invite aujourd'hui à profiter du repos qu'il offre. Il t'invite ce matin à profiter du repos qu'il offre. Fini le fait de se tracasser parce que nous estimons ne jamais faire assez pour le Seigneur. Il a tout accompli. Viens à lui pour te reposer. Fini le culte de la performance, la comparaison avec les autres, le besoin de faire mes preuves, la productivité à tout prix et parfois au détriment de ma famille. Fini tout cela parce que ma vie a été rachetée par le Seigneur. Il lui appartient désormais. Il ne s'agit plus de moi, moi et encore moi. Il s'agit maintenant de lui et encore de lui. Jésus est celui qui m'offre le véritable repos. Et si tu veux te reposer cette semaine, tu n'as pas besoin d'abord de vacances, tu as besoin de venir à Christ. Recherche le repos auprès de Jésus. C'est lui qui t'appelle, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il est doux et humble de cœur. Son fardeau est plus léger que tout ce que tu es peut-être en train de porter. Quand avons-nous pris le temps de nous arrêter pour profiter de son repos, de sa présence, de sa grâce, de sa communion? Alors peut-être que nous le vivons ce matin, mais quand est-ce que c'était la dernière fois? Je me souviens d'avoir lu dans un livre écrit par Michael W. Smith, un artiste chrétien, qu'il y a une période où il allait de succès en succès, de concert en concert. Tout fonctionnait bien pour lui, il le faisait pour le Seigneur. Et pourtant, il se sentait épuisé. Pas seulement à cause des tournées, très certainement que ça, c'était aussi un facteur, mais intérieurement, vide. Et il s'est rendu compte à un moment donné qu'au milieu de tout ce succès qu'il connaissait, qu'il n'avait pas vraiment pris de temps pour s'arrêter devant Dieu. Voilà pourquoi il se sentait épuisé. Est-ce que ce matin, tu te sens aussi épuisé pour les mêmes raisons? Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté, le fait d'être à bout de souffle, épuisé, vidé. Sachez ce matin que Dieu vous appelle à vivre le sabbat, à lui remettre tout ce que vous portez à bout de bras et à profiter de cette communion avec lui, cette communion pour laquelle Dieu nous a créés. Et c'est lorsque nous retrouvons cette intention originelle que là, oui, nous nous sentons bien. Parce que précisément, Dieu nous a fait pour lui. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le vivre chaque jour. Alors finalement, si je vous ai interrogé au début sur la qualité de votre sommeil, c'était pour souligner que cela pouvait être le signe d'un manque de repos plus profond. À une époque où on cherche à nous tenir éveillés aussi par les écrans et toutes sortes de distractions en nombre quasi illimité, je crois que la parole de Dieu tombe à pic et que ce quatrième commandement en particulier tombe à pic. Dieu appelle à entrer dans son repos, à vivre de cette communion joyeuse et profonde avec lui. C'est là que vous vous sentirez vraiment reposé. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ. Et vraiment, nous sommes reconnaissants envers Jésus pour cela. Oui, si tu as mis ta confiance en Jésus pour ton salut, tu peux profiter de ce repos dès maintenant. Et si tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas saisir la main tendue de Jésus qui appelle les gens fatigués à se reposer auprès de lui? Pourquoi attendre? Dans cette vie, ce que nous attendons ardemment, ce ne sont pas les prochaines vacances, ni même le jour de la retraite pour ceux qui travaillent encore. Non, ce que nous attendons avec espérance, c'est le repos parfait, éternel, céleste, que Dieu accordera aux siens, à celles et ceux qui lui appartiennent. Cette réalité d'un repos tellement apaisé parce qu'on sera en sa présence. Et pas juste le septième jour de la semaine, mais pour l'éternité. Et de cette réalité future, nous n'en avons présentement qu'un avant-goût. Si effectivement, nous profitons dès maintenant du repos en Jésus-Christ. Amen.